Don't cry, golden eyes shine in the night. Don't cry, what a long, lovely
positif, soyez joyeux. Écoutez Radio Livre Audio.
Pharaon, la chanson de Lulu. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Une nouvelle interview musicale, poétique, instrumentale avec Lulu. Bonjour, comment ça va?
Bonjour, ça va. Un peu de pression.
Un peu de pression. Alors voilà, aujourd'hui on va parler de ton univers musical. Voilà, de tes chansons. Ça fait 2 mois qu'on se connaît. À peu près, je sais pas.
À peu près, oui, peut-être un peu plus.
Et moi, du coup, je crois que j'ai vraiment aimé tes chansons, j'ai vraiment aimé ton univers. Je me suis dit, allez, on va essayer de faire quelque chose, d'aller créer une belle interview. Et c'est le jour J. Et comment ça va aujourd'hui?
Ben, ça va, j'ai bien dormi, je me suis bien préparée, j'ai beaucoup travaillé. Donc, voilà.
Merveilleux, oui, j'ai vu que tu l'as bien bossé cette interview. Je te félicite. Mais avant de commencer, voilà, j'aimerais que tu te présentes un peu à nos auditeurs et que tu nous dises un peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'inspire de manière générale.
Voilà, moi c'est Lulu Pimaille, je viens du Tarn dans un petit trou paumé que probablement personne ne connaît. Et j'ai grandi dans une famille de musiciens dont je fais de la musique depuis toujours. J'ai 2 sœurs et des animaux de compagnie aussi depuis toujours. Et voilà, du coup j'ai appris le piano, le violon alto, et puis j'ai développé plus tard par moi-même la guitare, le chant. Bah, le chant j'en ai fait aussi avec ma mère, beaucoup. Et voilà, j'ai commencé à composer passé 20 ans.
D'accord. Quand tu parles d'animaux de compagnie, c'était quoi comme animaux de compagnie?
Au début on avait des cochons d'Inde.
Des cochons d'Inde?
Oui. Et après on a vite eu des chats aussi.
D'accord.
Et maintenant, j'ai un chien.
Ok.
Donc, je suis entourée d'animaux depuis longtemps.
La chanson qu'on a écoutée, Pharaon, c'était par rapport à un autre chien que tu as eu?
Oui, c'est un ami de mon chien, justement. Mais c'est pas mon chien à moi, Pharaon. Il s'appelle Farou, en fait. Et c'est un chien de la montagne qui m'a inspiré à cette chanson pendant que je le gardais. Il était...
C'est vachement beau de faire des chansons pour les animaux, je trouve, en leur honneur. Et c'est pas tout le temps qu'on en entend. Le monde animal t'inspire?
Un peu, ça dépend. J'en ai une autre pour un chien aussi. Mais c'est un ami qui a fait le texte.
Oui, la chanson Yin.
Oui.
Très belle chanson. Voilà, ok. C'est merveilleux. Et comment tu étais enfant ? Comment tu voyais le monde ? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête ?
Enfant, pour moi, tout était beau et rose, sauf l'école. Et je me disais que tout ce que je comprenais pas maintenant, je le comprendrais adulte. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est pire. Voilà.
Tu aimais la vie.
J'aimais la nature, j'aimais la campagne, j'aimais mes sœurs, j'aimais mes parents. J'aimais mes animaux. J'ai eu un cheval aussi à un moment, j'ai pas parlé de mon cheval. Je n'ai pas écrit de chanson, c'est peut-être pour ça.
Et donc tu as grandi un peu dans un univers rempli de d'artistes.
De princesses.
De musique.
De musique, oui, d'art. Mon père, ma mère, et puis bon, ils sont très sensibles à l'art.
Et donc, tu me disais que c'était depuis plusieurs générations que vous transmettez la musique.
Oui, oui. Ben, en tout cas, au niveau du piano, de mère en fille, un peu. Je sais, je suis remontée jusqu'à mon arrière-grand-mère, je sais qu'elle était pianiste, ma grand-mère aussi, ma mère aussi, moi aussi. Bon, j'ai pas d'enfant, donc pas de pianiste pour l'instant. Mais,
d'accord. Ah, le piano, c'est un des instruments clés. L'instrument
on dirait, oui.
D'accord. Ok. Et un peu plus tard, quand tu étais plus adolescente, comment tu voyais le monde ? Comment ça a évolué, tout cet univers artistique ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là ?
L'univers artistique, à l'adolescence, je l'ai fermé complètement. D'accord. Et je l'ai rouvert plus tard, un peu plus tard, juste à la sortie de l'adolescence. Mm-hmm. C'était un peu la désillusion à partir de mes 12 ans, donc en fait à partir du moment où j'ai arrêté le violon alto, mm-hmm. parce qu'en fait j'ai pas arrêté le solfège, mais j'ai arrêté le violon alto. À partir de là, j'ai commencé à être déçue par le monde, par ce qui m'entourait, ce que je voyais, ce dont je prenais conscience et tout ça.
D'accord.
Et ça a été de pire en pire. Et ben, du coup, mine de rien, ça a quand même nourri mon monde artistique. Ça m'a donné matière d'expression et ça a joué énormément sur le fait que je compose aujourd'hui.
D'accord.
Voilà.
Oui, je trouve, pour ceux qui écoutent, je vous suggère d'aller tout de suite sur le SoundCloud. Vous marquez Lulu Pimaï et vous trouvez ses chansons. Je trouve que dans tes chansons, il y a cette part de désillusion et cette part d'espoir en même temps.
Oui.
Et c'est intéressant, tu joues sur ces deux tableaux, c'est joli.
Oui, et je vais plus parler de l'espoir quand même, mais du coup qui m'a inspiré par cette désillusion. Je vais quand même plus développer au niveau de l'amour, de la douceur et de l'espoir, de la spiritualité, plutôt que d'en remettre une couche sur ce qui va pas dans le monde, quoi. J'en ai une qui s'appelle Éducation, qui n'est pas sortie encore, où c'est vraiment celle-là, je crache toute ma colère.
Oui.
Mais j'en ai pas beaucoup d'autres.
D'accord, je comprends, voilà. Ouais. Il y a tout un chemin dans tes chansons, on va en parler, on va découvrir tout ça au fur et à mesure. Et est-ce que tu as eu des lectures qui t'ont inspiré aussi
Des lectures
plus jeunes qui t'auraient... donner des idées, de
j'ai énormément lu toujours, depuis toujours.
D'accord.
Il y a eu notamment la trilogie La Croisée des Mondes qui m'a énormément inspirée, aussi bien dans ma vie, dans ce que je fais, dans ce que j'ai rencontré, que dans ma musique ou dans tout.
C'est de l'héroïque fantasy ?
C'est plus ou moins, oui. C'est une trilogie de Philip Pullman.
D'accord.
Qui en plus est adressée vraiment à tous les âges. Je l'ai commencé à 11 ans et d'accord. Je la relis encore maintenant en découvrant de nouvelles facettes du texte.
Intéressant.
Ah, c'est vraiment une trilogie très 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 prenante.
Ok. Mais c'est merveilleux tout ça.
Et plus tard, après toute cette désillusion et tous ces moments, notamment le passage à la grotte. Parce qu'en anglais ils disent cave et là-bas on parle anglais.
T'as un petit peu voyagé.
Oui, quand même, un peu beaucoup même. Oui.
À partir de la fin de ton adolescence ou...
À partir de mes 21 ans, j'ai commencé par le Japon.
D'accord.
Toute seule, en tout cas, parce que juste avant, à 19 ans, j'avais quand même emmené ma sœur à Oxford, en train.
Oxford, tu nous rappelles où ça que ça se trouve ?
C'est au nord de Londres, en Angleterre.
D'accord, c'est la fameuse université très réputée.
D'où se passe la Croisée des Mondes, justement, en tout cas le premier volume.
Ah, tu voulais aller voir les lieux.
Eh ben non, il y avait un concert d'un groupe japonais, c'est tout. Mais quand je dis que ma vie est assez liée à ce livre, c'est vrai. C'est vrai, même encore
et
maintenant.
Pourquoi ce concert de musique japonaise qui t'a donné envie d'aller au Japon ?
J'aimais déjà le Japon avant, j'avais déjà envie d'y aller avant.
D'accord.
Et peut-être que ça m'a bougé, peut-être pas. C'est peut-être le fait d'avoir voyagé avec ma sœur, sans les parents derrière, sans rien, par moi-même un peu, qui m'a aussi bougé. C'est surtout la bourse de la fac, même si j'étudiais pas, j'avais quand même la bourse. Et du coup, financièrement, ça m'a permis de prendre un billet.
Pour aller à Oxford.
Pour aller au Japon. Après Oxford, ça c'était après Oxford.
Ah, c'était un peu un voyage d'études.
Le Japon. Non, en fait, pas du tout. C'est que j'étais inscrite à la fac et du coup, j'ai touché une bourse du fait d'être inscrite.
Oui, oui. Et donc, tu étais au Japon.
J'ai utilisé cette bourse pour aller au Japon, bien sûr.
C'est bien, tu as osé.
Bon, je suis pas la seule à le faire, mais il faut peut-être pas trop le dire. Ouais. Je le fais plus maintenant.
Le temps a passé.
Oui. Okay. Oui, mais c'était il y a 10 ans presque.
Donc, Et puis, un peu plus tard, tu es allé aux Canaries. Tu me raconterais ce passage?
C'est un passage...
À moins qu'il y ait d'autres éléments importants avant.
Oh, il y en a eu, parce que genre, le premier voyage au Japon, c'était pas le voyage avec la guitare sur le dos. C'était le voyage assez sérieux. J'avais réservé un guest house. J'étais partie deux semaines parce que j'avais pas les moyens de rester plus longtemps. D'accord. Et tout ça. Mais après ça, je suis partie en Italie, avec la guitare sur le dos, en me disant, quand j'aurai plus d'argent, je jouerai pour rentrer.
D'accord.
Et ça n'a pas marché, donc j'ai dû faire du stop pour la première fois. J'y connaissais rien, c'est un peu chaud et tout. Mais je suis rentrée, je suis vivante, j'ai gagné beaucoup en expérience. Et petit à petit, j'ai continué de voyager comme ça. Et à un moment.
Tu as joué un peu partout, tu as commencé à jouer dans les rues.
Oui, ouais. À oser, parce que c'est pas évident d'oser au début.
De se représenter, ouais, de se mettre en scène. Oui. Dans des lieux où ça part, des lieux où ça passe moins, j'imagine.
Voilà. Puis en plus, j'ai commencé par le chant, guitare-chant, les deux derniers trucs que j'ai vraiment bossé.
D'accord.
C'est ce que j'ai commencé plus tard, quoi.
Parce que c'était le violon avant que tu jouais un peu dans la rue.
Non, avant, je jouais pas dans la rue. Le violon, en fait, j'en faisais juste dans les groupes et en improvisation, dans les boeufs. Et puis finalement, voilà, j'ai tourné au violon parce que c'est moins embêtant à transporter, quand même. Et ça touche plus les gens dans la rue, aussi.
D'accord. Mais je me demandais... Tu as appris tous ces instruments l'un après l'autre ou en même temps dans ta famille?
Piano et violon alto plus ou moins en même temps parce qu'on avait un piano à la maison.
D'accord.
Violon alto à l'école de musique parce que du coup, bah, comme mes parents étaient musiciens, ils nous ont inscrits, mes soeurs et moi, à l'école de musique. Mmh. Et après, bah, guitare, j'ai repris. J'ai commencé beaucoup plus tard, à passer 20 ans. Je ne sais pas quel âge j'avais exactement.
Ouais. C'était un peu plus tard la guitare.
Beaucoup plus tard, oui. Mmh. Mais du coup, toute seule, mais avec le bagage musical que j'ai, je m'en suis sortie.
Ok. Puis on en vient du coup, c'est un voyage initiatique.
Aux Canaries.
Voilà. Qu'est-ce que c'est cette histoire?
Alors, c'était pas du tout prévu à la base que j'aille aux Canaries. Ça devait être une étape pour aller au Brésil, mais finalement, je suis pas allée au Brésil et je suis restée aux Canaries. Mm-hmm. C'est aussi de par mon groupe Corrigan Circus que j'ai connu cet endroit. Et c'est
ils t'ont dit d'aller faire un tour là-bas.
Ils y habitaient plus ou moins eux-mêmes déjà à ce moment-là. Ils m'ont conseillé, si je voulais trouver un bateau pour partir au Brésil, de demander à cet endroit la Palma, du coup.
D'accord.
Et du coup, j'y suis allée, et puis j'y suis restée. J'y suis restée 5 mois en tout, donc 4 mois dans une grotte. D'accord. 2 mois avec mon maître initiatique, et puis 2 mois toute seule, pour appliquer ce qu'il m'avait appris, en fait. C'est là que j'ai eu mon premier chien de la chanson Yin.
D'accord.
Que j'ai ramené après en France.
Oui, oui.
Et ça a été un peu mon éveil spirituel, on va dire, prise de conscience du monde. J'ai arrêté de faire la fofolle jeunette là-bas, quoi. Mmh. Et ça a été aussi la grosse désillusion, disons que ça a bien enfoncé le clou de l'adolescence. Moi.
Oui.
Donc ça, j'avais déjà 25 ans quand même.
Une retraite un peu, ça devait être quelque chose.
Mm-hmm.
Tu es resté longtemps là-bas?
Du coup, 5 mois en tout, 4 mois dans la grotte. Donc,
tout près de la mer?
Oui, tout contre la mer.
Il y avait de quoi survivre? Comment tu faisais?
Il y avait une ville pas très loin quand même, ouais. On faisait la récup à peu près tous les jours.
Ouais.
Et puis je pouvais quand même jouer un peu, je jouais un petit peu. Dans la rue, mais on ne pouvait pas gagner des 1000 et des 100 non plus, mais ça permettait d'acheter du riz et de l'huile d'olive.
D'accord.
Donc, mais ça ne permettait pas de mettre de côté pour repartir.
Oui, je vois.
Donc, c'est un peu une prison.
Ok, c'est intéressant tout ça. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris tu as rencontré des gens, tu as fait des expériences un peu fortes pour ta musique
Pour la musique, oui. Du coup, c'est là-bas que j'ai écrit ma chanson Colère, on va dire, Éducation. Mm-hmm. Enfin, j'ai écrit le premier jet là-bas. Après, je l'ai peaufiné en France et j'en ai fait une chanson en France. Mm-hmm. Et j'ai rencontré mon maître initiatique hongrois.
Ah, voilà, c'est ça qui m'intéresse. comment c'est arrivé cette rencontre? Par hasard?
Par hasard. Mais je sentais, j'étais appelée, mais ça m'arrive tout le temps dans ma vie.
Tu as rencontré quelqu'un en marchant?
Non, je jouais dans la rue avec un des gars qui m'avait emmené aux Canaries.
Oui.
Et en fait, ce gars-là s'arrête pour nous écouter jouer. Et quand je le vois, je me dis, ah, ce mec, c'est mon ami. Il faut qu'il me parle.
Il y a quelque chose qui arrive.
Il y avait vraiment quelque chose. Et en fait, il est parti. Ouais, il y a un truc. Quand je l'ai vu, c'est un peu comme si je le reconnaissais. En tout cas, c'était mon ami. Pour moi, c'était déjà mon ami. Et il fallait qu'il me parle. Il fallait pas que ce soit moi qui lui parle, mais que ce soit lui qui me parle. Et en fait, il est parti parce qu'on jouait et qu'il avait autre chose à faire, j'imagine. Et on s'est recroisé après, plus tard dans la rue, et il se trouvait que le gars avec qui je jouais à ce moment-là le connaissait. Du coup, ça nous a mis en contact. Et quand on a commencé à discuter, qu'il m'a montré sa grotte et tout ça, je me suis dit que waouh, c'était là qu'il fallait que je passe mon moment en Canaries et pas où j'étais à ce moment-là. C'est pour ça que du coup, je suis restée 5 mois. Et pendant un mois, j'ai erré un peu sans savoir où aller.
Jusqu'à ce que ce moment se soit déterminé.
Jusque-là, ouais. Voilà.
D'accord.
Et du coup, je suis restée dans sa grotte. Alors, il m'a avoué. C'est lui qui m'a appris le yiking.
D'accord.
Qui est utilisé dans la croisée des mondes. Et ça, j'ai fait le lien plus tard. Mais la façon dont il en parlait, pour moi, était exactement la même façon dont l'héroïne de la croisée des mondes parlait de l'alétiomètre. Et de ce fait-là, j'ai fait une confiance aveugle tout de suite, directement, à ce gars-là, à ce hongrois. Et du coup,
l'alétiomètre,
c'est une sorte de yiking qu'utilise l'héroïne dans le livre. C'est une sorte de grosse boussole qui lui permet de
faire
par des symboles, ouais, de faire plus ou moins des prédictions, de savoir ce qui se passe ailleurs.
Ah oui,
tout ça.
Intéressant.
Ouais, un guide, c'est un guide en fait.
Et donc c'était un peu l'enseignement presque spirituel, j'ai envie de dire.
Du coup, c'était complètement spirituel. Oui.
D'accord.
Oui. Il m'a appris sur beaucoup de religions. Il avait déjà lu énormément de choses et du coup fait un résumé.
Ouais.
En tout cas, un résumé personnel pour lui.
D'accord.
De ce qu'il y avait de bon à tirer de chacune des religions, des spiritualités, des philosophies.
Wow,
il avait énormément de recul sur... Bah, ça faisait déjà un an qu'il vivait dans la grotte. Donc il avait effectivement énormément de recul sur la société, sur ce qui se passait dans le monde. Mmh. Donc il m'a appris, il m'a ouvert les yeux un peu sur tout ça. Et il m'a mis face à mon propre comportement.
C'est étonnant d'ouvrir les yeux dans un endroit retiré du monde.
Justement, on a le recul.
Oui, avec le recul, hein, c'est ça que ça donne. Alors qu'on pourrait penser que c'est en regardant le monde. Mais non, finalement, c'est en regardant de loin.
Et oui, c'est ça.
Mmh. Ok. Et puis après... Tu as décidé de rentrer? Comment ça s'est fait? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi les clés pour partir à ce moment-là?
On a tous les deux décidé de rentrer. Ça nous a pris au moins un bon mois et demi à trouver le moment et l'argent. Mmh. C'est pour ça qu'au final, je suis restée longtemps. Et ben, c'était juste les événements autour de nous et le fait aussi d'être vraiment cantonné à un endroit sur une île, c'est petit, ça limite les ambitions,
tout
ça limite les déplacements.
Tout le monde sait ce qui se passe.
Il y a des histoires, oui, il y avait beaucoup d'histoires un peu glauques.
On
en a eu marre, on voulait partir. Quoi.
Ouais, ça devient attendu.
Oui.
Tu me parlais d'une tempête aussi ou d'un climat.
Et il y a eu aussi le temps qui s'est vachement dégradé et avant de ne pas pouvoir partir, on a voulu partir.
Après, ça aurait été trop long.
Ça aurait pu... Il y a eu des marées très élevées, très hautes, qui auraient pu empêcher les bateaux de décoller, ou des fortes pluies.
Grotte,
la grotte était peut-être assez loin, mais le chemin de la grotte, ça aurait pu être possible, oui. Puisque déjà, l'endroit où on faisait la lessive a été recouvert, dévasté par les vagues.
D'accord.
Donc, on avait fait des rêves aussi un peu pressants qui m'étaient... qui nous incitait.
Ah oui, toute une ambiance.
Oui, c'était un ensemble de choses qui a fait.
D'accord.
Que... Oui.
Et donc, parfois peut-être, tu restais seule aussi, tu n'étais pas toujours avec cette personne.
Pratiquement tout le temps. En fait, les deux mois où j'ai vécu dans la grotte seule, comme si on était voisins, on se retrouvait l'après-midi, voire toute la journée.
Ok.
Oui. On a fait de la musique ensemble.
De la musique.
Je lui ai écrit deux chansons. Il y a Jeu de hasard qui est sur mon SoundCloud.
On pourra écouter Jeu de hasard sur SoundCloud, ouais.
Voilà.
Okay.
Celle-là, je l'ai écrite là-bas, je l'ai composée là-bas. Et en rentrant plus tard, parce qu'on devait se revoir et évidemment, on ne s'est pas vraiment revu, j'ai écrit Lonely Soldier. C'est aussi pour lui. D'ailleurs, les paroles lui sont vraiment adressées à tel point qu'il y a un passage, je pense qu'il n'y a que lui qui comprend. Mm-hmm. Et tous les utilisateurs de Yiking, peut-être, de Yiking.
D'accord.
Mais il y a vraiment une référence très très personnelle. Voilà. Mais il l'a pas aimé, bon, ça arrive.
Je rebondis. Alors voilà, pour le yiking, ça tombe vraiment bien puisque j'ai mis un PDF sur le yiking sur le site Radio Livre Audio que vous pouvez retrouver, que vous pourrez consulter pour faire le lien. Et bientôt, il y aura aussi des cours sur le yiking. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant à étudier. Nous allons faire une première pause musicale, à moins que tu aies quelque chose de plus à rajouter pour l'instant sur cette partie-là.
À part que ça a été un changement radical dans ma vie. Qui est avant après.
Tu sens que tu as pris un peu plus de maturité?
J'ai pris plus de maturité, oui. Et voilà.
D'accord. Mais dans le positif aussi?
Aussi, oui. Oui.
Okay.
Après ça, j'ai commencé à lire des livres de spiritualité, à m'ouvrir un peu, m'intéresser un peu à ce qui existait déjà.
Enrichir ton univers.
Voilà, oui.
Enrichir ton écriture
à
aussi.
À être plus proche de moi-même aussi.
D'accord. Est-ce que tu penses que... Ce que tu es artistiquement maintenant, ce que tu mets dans tes textes, dans tes musiques, est-ce que tu penses que sans ce moment de vie-là, ça aurait peut-être perdu en intensité. Tu n'aurais pas peut-être la fibre que tu as maintenant.
C'est sûr. Sûr que je ne l'aurais pas, oui. Okay. Toute ma musique, toutes mes chansons sont vraiment inspirées de mon chemin de vie. Donc elles sont très personnelles, elles sont même intimes.
Fort et tout, hein.
Et tout ce que je vis est dans mes chansons. Même mes chansons, même juste un instrumental, peut en dire plus que ce que je pourrais jamais dire avec les mots.
Donc, oui, c'est vrai que c'est un langage à part entière.
Hein. Oui. Plus émotionnel, du coup, plus intime
qui
aussi.
Touche à l'âme, ouais.
Oui.
Et bien, nous allons faire une première pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques instants, les amis. Et nous revoilà, nous allons continuer d'explorer un peu plus en détail ton univers, tes créations, tes ce qui t'inspirent, tes textes, voilà. Alors, est-ce que tu nous parlerais un peu de tout ce que tu as essayé? Parce que tu as essayé la musique, mais tu as essayé plusieurs univers artistiques. Tu as essayé l'écriture peut-être?
L'écriture, j'écrivais des histoires comme ça quand D'accord. j'étais petite, pour rigoler un peu, on va dire. Mm-hmm. J'ai pas tenu. Et non, plus jeune, j'ai pas toujours fait de la musique, du coup, à un moment, j'ai essayé de m'en tenir au cursus, disons, normal, mm-hmm. et de faire des études, mais c'était vraiment pas pour moi, donc je suis jamais allée au bout. Mm-hmm. Même les études de musique, j'ai eu du mal à aller au bout, parce que c'est le cadre, en fait, qui me convenait pas. Mm-hmm. Du coup, je me suis relativement cantonnée qu'à la musique, et je me suis mise à écrire des paroles et des textes plus tard, en fait, quand j'ai commencé à faire mes propres chansons.
D'accord.
À côté de ça, maintenant, je fais du crochet, de la couture, de la broderie.
Ça, c'est intéressant.
Voilà. Mais ça, je m'y suis mise plus tard aussi.
On mettra peut-être quelques images sur la page du site, les amis. Comment c'est venu, ça, le crochet
Le crochet, ma grand-mère fait du tricot, en fait, depuis toujours. Elle nous faisait des pulls quand on était petites. Du coup, gamine, on lui a demandé...
La grand-mère faisait de la musique aussi?
C'est la même grand-mère.
Ah, oui, d'accord.
Du coup, quand on était petite, on lui a demandé de nous apprendre. Elle nous a appris un peu les bases du tricot et mm-hmm. du crochet. Après, bon, j'ai pas tenu quand j'étais jeune.
Oui, oui.
Mais comme j'avais la base, je m'y suis remise parce que c'est pratique.
Et tu fais quelques créations parfois que tu m'as montrées il y a pas longtemps.
Oui, hein. Oui, je fais bonnet, mitaine, banane aussi. Je me suis fait un sac banane.
Ah oui, tu fais des sacs bananes.
Oui.
En laine ou comment tu fais après?
En coton.
En coton.
Oui.
Ah d'accord.
Okay. Et je fais aussi des ponchos ou des
couvertures. Ah oui, t'as tout ton petit univers stylistique.
C'est oui, génial. Voilà.
C'est génial. Okay. Et je me demande, qu'est-ce que tu aimerais essayer comme truc dans ce même ordre d'idée, de travail manuel ou artistique? Vers quoi tu aimerais aller que t'as pas peut-être encore essayé ou pas assez?
J'aurais bien voulu savoir dessiner.
Dessiner?
Mais je ne sais pas dessiner. Donc, enfin, c'est beaucoup d'accord. d'entraînement aussi. Après, l'art, oui. c'est quelque chose où il faut se tenir quand même. Et bon, je fais suffisamment de choses. Quoi.
Le dessin. Donc, ok. La peinture, le dessin,
le crayon.
Non,
juste le dessin au crayon.
Dessin au crayon.
Quand j'étais au collège, je m'ennuyais beaucoup et je dessinais des chevaux sur mes cours.
Ah oui.
Du coup, je sais faire les chevaux et les fleurs. C'est tout.
C'est déjà pas mal. D'accord, c'est super. Est-ce que tu nous parlais un peu de tes instruments? Tu as dû en explorer pas mal et tu en as qui doivent te suivre de temps en temps et même sur le long terme. Tu nous parlais de tes instruments?
Oui, moi j'en ai eu beaucoup, c'est vrai. Bon, après, quand on est enfant, on a des instruments pour enfants et on en change assez régulièrement en grandissant, mm-hmm. à part le piano peut-être. Mais sinon, mon alto, mon violon alto, par exemple, je l'ai, ça fait 10 ans cette année que je l'ai, c'est un cadeau de ma maman. Mm-hmm. Et on a un parcours très, très intime, tous les deux.
Beaucoup de créations avec ce violon.
Et c'est l'alto qui me suit depuis que je m'y suis remise, on va dire.
D'accord.
Donc avec lequel j'ai appris à improviser, avec lequel j'ai commencé à voyager, à jouer dans des groupes.
Ah oui, ça. Donc, chargé oui, c'est, et tout. Ouais.
C'est, il est très précieux à mes yeux, oui.
Alors j'ai une question qui me vient. Est-ce que tu penses que le violon, ou ce, est-ce que tu penses que le violon est, il a une âme dès le départ, ou est-ce que c'est le fait de l'avoir et de créer avec lui qui lui donne une âme?
Les deux.
Les deux.
Les deux. Le luthier qui construit l'instrument, il y met ce qu'il est dedans. Il y met une intention et il y met quelque chose. Et après, il y met plus ou moins quelque chose. Genre, par exemple, mon alto a été à moitié construit en Chine, donc je pense qu'il y a plus ou moins quelque chose dedans.
D'accord.
Mais, et après, l'instrumentiste et les instrumentistes qui vont jouer de cet instrument forcément vont aussi apporter ce qu'ils sont. Et l'instrument va prendre un certain son selon comment il est joué au bout d'un moment.
Oui, on parle parfois de la mémoire du bois. C'est vrai que quand on touche tes instruments, on sent qu'il y a une densité particulière.
Particulièrement sur mon violon de 1421, oui.
Tu nous en parlais de celui-là, il est très intéressant.
Mais c'est un trésor de famille, on va dire.
Qui circule de génération en génération
Pas forcément, en fait, il était chez les grands-parents de mon cousin, du côté de mon père. Donc,
d'accord.
Côté famille par alliance, pas côté famille de la de sang.
D'accord.
Et je suis tombée dessus plus ou moins par hasard en allant chez eux... C'était quand il y a... L'année dernière, je crois.
Il est extraordinaire, je trouve. Il a une boîte, déjà, qui est pas mal.
Qui date de 1721 aussi.
C'est un cachet, il y a quelque chose. On mettra la photo, voilà. Mm-hmm. C'est beau, c'est très beau.
Oui, oui. Et du coup, en fait, quand ils me l'ont montré, moi, j'ai bien vu tout de suite qu'il était petit. En fait, c'est un violon pour enfants. Et c'était, c'était même pas les grands-parents eux-mêmes qui en jouaient. C'était un frère du grand-père, je crois.
D'accord.
Quelque chose comme ça. Il en jouait quand il avait 12 ans, donc...
Oui.
Donc c'était vraiment un instrument pour enfants. Mais je l'ai tenu dans les mains, j'ai commencé à jouer en PIDS parce qu'il n'était pas jouable tel quel dans l'état où il était.
Oui, oui.
Juste en PIDS comme ça, faire sonner deux cordes.
D'accord.
Et je trouvais ce son vraiment incroyable et je sentais, j'avais presque les mains qui vibraient de le tenir. Donc j'ai regardé dedans et là c'était écrit Stradivarius. Donc je me suis dit oui, ça ne doit pas être pour rien qu'il est si fort quoi.
Waouh.
Voilà, mais après avoir fait expertiser, tout le monde me dit que c'est une copie. Pour moi, il sonne, il a une âme, c'est tout ce qui compte.
C'est ce qui compte. C'est...
Et il est ancien quand même. Donc...
Il est ancien, voilà, si tu prends plaisir à jouer avec ça, que ça touche, c'est ce qui compte.
Voilà.
Ok. Et donc, tu as une piano droit aussi? Tu nous parlais de ce piano droit?
J'ai appris, oui, sur le piano droit de ma mère, qui est actuellement chez ma grand-mère, donc chez sa mère. Et bah, du coup, ce piano, bah, le piano sur lequel on apprend, c'est un peu le piano qui nous tombe sous les doigts quand même.
Ouais. C'est avec celui-là que tu as appris le solfège?
Le solfège, c'est à part.
À part.
J'apprends pas forcément, on n'apprend pas forcément avec l'instrument.
Ouais.
Ça, j'ai appris à l'école de musique, donc...
C'était à part, d'accord.
Oui.
Ce piano droit, ça fait aussi longtemps qu'il est dans la famille.
Mes grands-parents l'ont acheté quand ma mère était enfant. Donc, ça fait pas si longtemps que ça.
D'accord.
Ouais. Ok. Oui. Maintenant, j'ai un piano électrique.
Oui.
Qui est chez mon père, qui est un cadeau de mon père, d'ailleurs. Mm-hmm. Qui me suit aussi depuis...
Avec toutes les fonctions modernes, là.
Oui, il y a tout ce qu'il faut dessus. Clavier lourd, surtout, ça c'est important.
Ah, comme un vrai piano à queue, par exemple.
Pas à queue, non. Plutôt comme un vrai piano droit.
Piano droit,
mais moins encombrant, du coup, moins lourd. Mais avec le même nombre de touches et le même toucher lourd.
Ah, il y a une densité, ouais.
Oui, oui, il y a une résistance quand on appuie sur la touche.
C'est ça, pas, c'est intéressant.
C'est pas un synthé. Oui.
Voilà. Okay, ouais,
celui-là me suit
ouais.
depuis un moment aussi. Depuis
d'accord.
10 ans, je dirais presque 10 ans, peut-être. Oui. J'enregistre avec Switzerland sur mon SoundCloud et enregistre avec en studio.
En fait, c'est ça qui est intéressant. Tu arrives à... On va y venir. Hein. Tu joues plusieurs instruments, piste par piste.
Oui, ça, c'est quand je m'enregistre à la maison.
Tu les enregistres au fur et à mesure,
comme ça. Oui, parce que je fais tout toute seule. Donc,
ça te tient à cœur
De tout faire toute seule.
Ouais.
Disons que j'ai jamais trouvé des instrumentistes ou les musiciens qui...
Je veux dire, tu as c'était l'habitude, tu es dans le moule de faire ça piste par piste.
Bah, j'ai appris comme ça au conservatoire à Toulouse. Mais c'est surtout comme ça que font les professionnels pour avoir un rendu...
Le meilleur rendu possible.
Oui, voilà.
Ok, d'accord.
Après, oui, c'est que je n'ai pas trouvé non plus les musiciens qui jouaient ce que j'avais dans la tête, quoi. Du coup, ou qui arrivaient à me surprendre, ou avec qui ça a accroché, ne serait-ce que juste humainement.
Mais personne-même, comme on dit, quelque sorte. Et du coup, par rapport à ça, Tu as appris à manier un logiciel de mixage.
Oui, Cubase.
Ah, ça t'a pris beaucoup de temps, ça.
Enfin, deux ans pour les bases.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, seulement pour les bases.
Bon, parce que j'ai redoublé aussi. Normalement, c'était en un an au conservatoire à Toulouse.
Ah, mais c'était dans une formation, une petite formation
oui.
conservatoire.
Oui.
Ah, c'est chouette qu'il vous ait permis d'essayer ça, de ne pas rester que dans un instrument, mais d'aller sur la technique aussi.
Oui, 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 ben, ça fait partie de la formation, notamment, il justifie ça comme un... c'est intéressant pour la personne qui enregistre et pour le musicien de connaître la base pour déjà savoir ce que l'autre fait derrière son ordi et pour pouvoir faciliter le travail aussi, le placement du micro et ce genre de choses.
Ah oui, donc du coup en mastering, tout ça, tu commences à quand même cette certaine base intéressante.
Quoi. Mastering, non. Mix.
Mix.
Oui.
Ok, d'accord.
C'est autre chose différente.
Mix enregistrement.
Oui.
D'accord. C'est bien, tu sais bien gérer ton petit univers de mixage. Tu as enregistré un CD toute seule aussi?
Oui. Mais du coup, mon premier album. À part trois chansons, oui, chez moi.
D'accord.
C'est Traveler, donc mon premier album, qui est sur SoundCloud aussi. Oui, bah, j'ai tout fait piste par piste,
wow.
À la maison.
C'est ça qui m'a touché, de me dire que tu explorais toutes les possibilités, que tu te donnais les moyens. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Ok. C'est chouette, tout ça, c'est chouette. Et qu'est-ce que tu aimerais maîtriser dans la technique peut-être, je ne sais pas, vers quoi tu aimerais aller, hormis les instruments, vers quel aspect de la musique tu aimerais comprendre?
Un aspect que je n'aurais pas déjà compris.
Parce que là, on a parlé de mixage, on a parlé des instruments. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose
Moi, par exemple, le mastering, j'y connais rien. Enfin, je sais à quoi ça sert.
Oui.
Je sais dans la théorie comment ça se fait, mais je suis incapable d'en faire un. Et à vrai dire, ça ne m'intéresse pas plus que ça.
D'accord.
Et
complexe, effectivement.
Après, il y a des instruments que j'aimerais bien savoir jouer, par
exemple. Quoi, par exemple,
comme par exemple la percussion ou la basse. Bon, la basse, c'est plus une question que c'est fatigant au niveau des doigts, les cordes sont tellement énormes que du coup, je m'y suis pas trop penchée non plus, j'ai pas insisté, on va dire.
Mais le son de la basse,
le son de la basse, j'aime énormément. Oui.
Ça te parle.
Oui.
D'accord. Et en percussion, quel genre de percussion
Celle sur lesquelles on tape avec les deux mains, genre tam-tam,
djembé.
Oui.
D'accord. Le caronne peut-être aussi.
Le caronne c'est un peu trop bruyant, un peu trop clair, un peu trop aigu. J'aime bien tout ce qui est grave.
Un son un peu plus grave.
Oui.
D'accord.
Oui.
Ok.
Et après au niveau de la technique des instruments que je maîtrise déjà, bon le piano j'aimerais en jouer plus, tout simplement.
Ouais.
Mmh. En fait je pourrais presque dire que j'ai arrêté le piano, mais.
D'accord.
Mais je me le dis pas sinon ça va être le cas donc voilà. Mmh. Et au niveau du violon j'avoue que j'aimerais gagner en précision. Je suis pas très précise dans ce qui est rapide.
Ah, tu veux jouer un peu à la grappelli, par exemple, un peu rapide. Je ne sais pas si c'est ça l'idée.
Oui, j'imagine qu'il
utilise la tigane un petit peu.
Pas forcément la tigane, juste vraiment réussir à être plus précise quand je joue rapidement.
Plus précise.
Oui. Avoir des attaques plus claires.
D'accord.
Mais bon, ça c'est l'entraînement aussi.
Ok.
Et ça, c'est très technique.
Ok, bah ça doit être très technique de savoir manier toutes les notes sur un violon. Déjà, c'est pas rien, ça doit prendre des années.
Oui.
Avant d'avoir le moindre son juste, il paraît qu'il faut beaucoup de temps, je sais pas.
Ah, mais même encore une fois, même maintenant, je joue faux régulièrement.
D'accord.
Oui.
Ok. Je voudrais que tu nous parles un peu de tes chansons. On va en écouter une tout à l'heure, mais je voudrais que tu nous parles un peu du cheminement. Comment tu écris tes chansons? C'est quoi le déclic pour écrire une chanson? C'est quoi qui se passe?
L'inspiration, c'est souvent une rencontre.
Une rencontre?
Souvent. En général, toutes mes chansons ont une histoire liée à quelqu'un. Il y en a énormément, la plupart de mes chansons sont destinées à quelqu'un.
D'accord. Ah oui, c'est pas juste des choses que tu te dis, tiens, je vais écrire ça, c'est parce qu'il y a un vécu derrière.
Il y a un vécu, ah oui, oui, oui. C'est toujours une situation qui m'inspire la chanson. Souvent, c'est des situations dont j'arrive pas à parler, ou sur lesquelles je peux pas mettre de mots.
D'accord.
Et la musique est plus expressive à ce niveau-là. Il y a même des chansons qui sont tellement intimes pour moi, comme par exemple La vie sourira, que j'ai écrite au Japon, que j'ai du mal à les sortir, j'ai du mal à me dire non, cette chanson, je peux pas la jouer, je peux pas la faire.
Tu veux dire devant un public ?
Devant un public ou ne serait-ce que devant une personne, parce que c'est tellement intime.
Elle est faite pour une personne en particulier, oui, d'accord.
Celle-là, oui, mais comme beaucoup d'autres.
Oui.
Mais c'est surtout au niveau de ce que j'exprime, c'est souvent donc des choses que j'arrive pas à exprimer par les mots, même s'il y a des paroles qui expriment ça. Et du coup, ça, c'est personnel et intime. Oui. C'est très, très lié à mon parcours, mon parcours de vie. Oui.
Voilà, du coup, on va parler de cette chanson, la Night Song, que tu vas nous interpréter tout à l'heure. Comment tu l'as écrite, cette chanson? Elle est venue comment?
Alors Night Song, c'était à la montagne. J'étais là-bas au printemps, pas celui-là, donc 2017, pour faire un potager en fait, et je gardais le chalet d'un ami, donc celui pour qui j'ai écrit Pharaon, donc c'est son chien en fait. Pharaon, c'est pour le chien de cet ami. Et en fait, donc je gardais le chalet et le chien, et j'attendais son retour, et c'est une chanson un peu prémonitoire. Donc en fait, pour le coup, pas tellement intime, mais personnelle. Donc en fait, j'ai visualisé son retour dans la nuit, avec une lampe, une lumière comme ça, et du coup, j'ai écrit le texte contemplatif de ce moment. Du coup, c'est un peu sombre parce qu'il faisait nuit, mais en même temps plein d'espoir parce que la pleine lune et la lumière au milieu de cette nuit, le retour, d'accord, les retrouvailles, tout ça.
Il y avait le sentiment que tu allais rencontrer cette personne et ça t'a donné l'inspiration.
Voilà, okay. Ça c'est un peu une chanson prémonitoire, on va dire. Parce qu'il est rentré exactement de cette façon-là, c'est pour ça. En fait.
Le thème des retrouvailles, quelque chose de retrouvailles, des rencontres, c'est très fort dans tes chansons, j'ai l'impression. C'est même central.
Oui, c'est ce qui m'inspire le plus.
D'accord.
Oui.
Ce qui te touche, c'est ce qu'on éprouve à ces moments-là, de séparation ou de retrouvailles, c'est ça qui te touche?
C'est plus particulièrement quand c'est des rencontres comme par exemple le Hongrois de la grotte, où dès que je l'ai vu, je me suis dit, cette personne, c'est mon ami.
Des personnes spéciales.
C'est quand même des personnes spéciales.
D'accord, oui, okay,
avec qui il se passe des choses qu'on ne peut pas vraiment exprimer parce qu'elles sont à un niveau tellement profond. Et c'est pour ça aussi que je parlais de chansons personnelles et intimes.
Presque mystique, on va dire.
Ouais. Ouais. Okay. Il y a cette dimension dans ma chanson.
Okay, waouh. Ouais. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà.
Et du coup, Night Song, il y a une version à l'alto, donc mon violon alto sur lequel je tape et je chante en même temps, et une version que je viens de sortir à la guitare qui est sur Internet déjà, sur SoundCloud et sur YouTube.
Ok, ben écoute, on va t'écouter, c'est magnifique, avec cette chanson Night Song. Bravo, c'est superbe, au pizzicato. Et il y a de l'émotion, il y a du voyage, il y a de la rencontre, il y a quelque chose de, il y a une histoire, on sent l'histoire. Elle est très belle, elle est très très belle. Quel est le message vraiment de cette chanson? C'est vraiment une rencontre.
Alors là, pour le coup, celle-là, il n'y a pas de message.
D'accord.
J'ai quelques chansons contemplatives comme ça.
Chansons contemplatives.
Oui, j'appelle ça des chansons contemplatives.
D'accord.
Il n'y a même pas... En fait, je fais attention aux paroles où il n'y a pas moi, je dedans, parce qu'en fait, c'est de la contemplation. Donc, une description, on va dire, d'une situation, d'un paysage. Il y a celle-là, il y a Riverside, qu'on peut écouter aussi.
Ah, c'est intéressant, les chansons contemplatives.
Oui, oui, oui. Et la prochaine qui arrive en studio, Traveler, elle est aussi contemplative. Voilà, il n'y a pas d'implication personnelle dedans. Musicalement, oui, si on veut.
Alors, au niveau
du contexte aussi, mais pas dans les paroles, en tout
cas. Alors, je vais rebondir, écoute, parce que c'est quelque chose que j'ai eu, qu'on m'a posé comme question. En fait, quand il n'y a pas d'histoire, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas et qui ne comprennent pas, ou qui ne s'y retrouvent pas. Alors, moi, j'ai fait un album l'an dernier, il y avait de l'instrumental. Il y avait un peu d'histoire, mais pas toujours. Parfois, c'était juste de la contemplation. Et comment tu vois ça, le fait que les gens, ils ont du mal à rentrer dedans s'il n'y a pas une histoire? C'est ça. Enfin, je trouve ça surprenant. Parfois, il faudrait juste se laisser porter par la musique, se laisser aller. Et puis, des fois, les gens, en fait, peut-être qu'il faudrait, entre guillemets, les éduquer, ou je sais pas quoi faire avec ça, moi.
C'est peut-être une question d'être mis face à soi-même dans ce genre de situation. Au lieu de t'identifier à quelque chose qu'on t'apporte, t'es obligé de te mettre face à toi-même et d'apporter toi-même quelque chose, une histoire à cette musique. Mais à mon avis, quand même, toute musique porte quelque chose. Même si les paroles sont contemplatives ou si c'est juste un instrumental, il y a quand même quelque chose dedans où on peut s'identifier. Et c'est peut-être juste que
C'est un truc entre le spectateur et l'acteur, quoi.
Je pense.
Donc, comment on se positionne? Si les gens sont habitués à se positionner en spectateur, ça voudrait dire qu'ils ont du mal à se positionner en tant qu'acteur.
Et peut-être même qu'ils en sont gênés.
C'est intéressant.
Il y a une œuvre de musique contemporaine comme ça. Je crois que c'est pour piano. Mais dans l'absolu, en fait, le musicien s'installe et ne joue pas.
Oui, c'est très connu, le nom du morceau d'ailleurs, c'est... La partition est toute vide, je sais pas comment ça s'appelle.
Je ne sais plus non plus de qui c'est, ni le
titre.
Années
60 ou 70, je ne sais plus. Mais
je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est typiquement ce truc du spectateur qui se retrouve face à lui-même et qui est dérangé.
Comme les tableaux blancs, par exemple.
Voilà.
Qui invite un questionnement personnel, où l'art, on peut, entre guillemets, c'est une façon de se l'approprier. Après, libre à chacun de le faire ou pas.
Voilà. Après, bon, une musique contemplative porte quand même plus d'histoire qu'un silence, quoique. Peut-être pas toutes. Je pense que ça vient de là. Mais moi, la première, j'ai tendance à décrocher dans les musiques d'ambiance, j'avoue.
Ah oui, attention, il faut faire attention. Entre les musiques d'ambiance et les musiques contemplatives, il y a quand même une petite différence, peut-être.
Oui, je pense.
Que la musique contemplative, elle va chercher un ton, une note, elle va chercher une intensité particulière.
Oui.
Qu'une musique d'ambiance va plutôt être répétitive. Et peut-être un peu plate.
Oui, j'avais plus posé une ambiance pour justement pouvoir faire autre chose par-dessus.
Toi, tu cherches à aller du coup dans cette intensité que donnent certains sons, peut-être, pour que cette musique ne soit pas associée à une musique d'ambiance.
Moi, je cherche à mettre le spectateur face à lui-même.
Ah, ça, c'est
et à se poser des questions. Enfin, je le cherche, je me rends compte que je cherche ça en voyant mes chansons.
Oui.
Je le fais pas exprès, on va dire.
Oui, c'est quelque chose qui vient comme ça, d'accord?
Oui.
Ok. Eh bien, nous allons faire une petite pause et nous revenons dans quelques instants. À tout de suite, les amis. Et nous revoilà les amis après cette petite pause. Alors, donc j'imagine que tu as déjà exploré pas mal, mais tu vas continuer à explorer. Quel est le prochain truc que tu aimes à explorer comme style?
Au niveau du style, je pense que j'ai trouvé mon style. Mmh. Après, j'avoue, je fais ma musique et les auditeurs font les catégories.
Ça, c'est très bon, ça, c'est très bon. Tu te sens en plus dans l'acoustique, rock acoustique ou pop acoustique? Comment tu te perçois?
Mon premier album est plutôt pop folk, pop on va folk. Dire, acoustique, c'est sûr. D'accord. Et le deuxième va avoir plus de rock. Il aura un côté un peu plus sombre.
Okay.
Comme par exemple la chanson Night Song que j'ai interprétée, qui sera dedans, mais à la guitare, donc c'est un peu plus lourd, avec des grosses basses.
D'accord.
Et la chanson, disons jumelle, à celle-ci, Traveler, qui est pareil, qui est beaucoup plus lourde, avec des grosses basses. Il y aura une chanson, ma chanson Colère, elle sera dedans aussi, Éducation.
La chanson Colère, d'accord.
Oui, elle sera à la guitare folk, qui a un peu plus d'impact, un peu plus d'attaque, on va dire.
Ok.
Je l'appelle ma chanson colère parce que c'est la seule chanson dans laquelle vraiment je déverse
tout ce que tu as en toi.
Oui, la désillusion de la société, du système.
C'est le but de l'artiste, de toute façon, de donner l'émotion que les autres n'arrivent pas à sortir.
Oui.
En quelque sorte. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a comme artiste qui t'inspire par rapport à tout ce que tu dis? Artiste ou auteur, poète, parolier, je ne sais pas.
Parolier, pour les paroles, en français, je suis très inspirée de Tom Dubord, qui est mon meilleur ami, donc forcément, forcément c'est un grand poète qui a beaucoup travaillé son français, la langue française.
Qu'on a déjà interviewé, les amis, souvenez-vous de l'interview sur son livre sur le rire.
Voilà, alors j'avoue qu'au niveau de mon écriture en français, je suis très inspirée par lui. Mmh. Après, au niveau des artistes musiciens, donc les autres musiciens que j'écoute, en fait j'écoute très peu de musique par moi-même.
D'accord.
Du coup, je reste sur des... Pas des vieux. Mm-hmm. Enfin, si, Jethro Tull, par exemple, c'est assez vieux. On
va dire. Jethro Tull, c'est vraiment une référence. Ouais.
Mais alors, pour le coup, c'est... Bah voilà, en fait, disons que je n'ai pas renouvelé mes goûts récemment parce que je me suis arrêtée à ça. Jethro Tull, Jack White, Kokia, c'est une artiste japonaise, une très bonne chanteuse, même une chanteuse magnifique.
D'accord.
L'arc-en-ciel, c'est du rock japonais aussi. Ça a été mes dernières influences que j'ai vraiment écoutées par moi-même, que j'écoutais régulièrement, comme le font les ados. Après, j'écoute de tout. Quand je suis en voiture avec ma petite sœur, par exemple, on écoute du Avenged Sevenfold, c'est du métal symphonique.
Ouais.
On écoute aussi du Nightwish.
Waouh, Nightwish, c'est magnifique. Oui.
Voilà, il y a l'influence orchestrale, il y a l'influence métal, un peu lourde. J'ai commencé par ça d'ailleurs. Au début, j'écoutais du métal.
D'accord, métal symphonique, peut-être Stratovirus dans l'idée aussi.
Ça, je connais pas.
C'est un groupe de métal symphonique qui est très. Prend des grands morceaux classiques et les met en rock, c'est vachement bien.
D'accord.
Ok, je vois l'idée, ouais.
Voilà, après, je suis très inspirée du classique, forcément, j'ai grandi dans le milieu. Donc... Et puis, Muse, par exemple,
Muse, ouais.
Qui est un groupe aussi inspiré du classique, je m'en inspire aussi beaucoup. Je jouais beaucoup de Muse au piano à l'époque où je jouais beaucoup de piano. Donc, j'ai aussi une grosse influence à ce niveau-là.
D'accord.
Et après, je prends tout ce qui passe. Et là, récemment, on m'a fait découvrir un rappeur japonais. Ça, je ne sais pas fait exprès.
Il est rappeur en japonais, je ne savais même pas.
si. Bon, il rappe en anglais, en japonais aussi, il rappe un peu en tout. Sur des fonds sonores de jazz. Et alors là, j'ai adoré, j'ai vachement accroché. C'était vraiment, vraiment bien. Donc, vraiment, j'écoute tout ce qui passe, tout ce qu'on me fait écouter, tout ce qu'on me propose. Voilà.
C'est magnifique.
Mais après, comme je joue beaucoup, j'avoue que j'écoute beaucoup le silence.
Le silence te parle?
Le silence me parle beaucoup. Okay. Parce que du coup, j'ai toujours de la musique dans les oreilles. Quoi.
Donc, alors attends, je rebondis du coup. Est-ce que tu penses que. Ah, par rapport au silence, là, on touche quelque chose du doigt qu'on a déjà abordé plusieurs fois dans nos émissions, les amis. Est-ce que pour créer, est-ce que pour composer, pour écrire, est-ce que c'est nécessaire de faire le vide en soi, en quelque sorte?
Il se fait tout seul, en fait.
Il se fait tout seul.
Quand il y a l'inspiration qui vient et qu'on est dedans, je crois qu'il peut se passer n'importe quoi autour, à part peut-être une bombe qui explose ou une bagarre.
Ça se fait.
Je pense que ça vient, ça sort. Ça, c'est là, si on se met dans l'état d'esprit ou si on commence...
Réceptif.
Oui. Mmh. Je crois que le vide, il est là, on est dans son monde, dans sa bulle, on est dans sa création... Il peut se passer quoi que ce soit, je crois qu'on ne suit pas ce qui se passe autour. Quoi. Donc oui, on peut dire que c'est un vide en soi, j'imagine. En tout cas, on canalise quelque chose qui, pendant le moment de la création et de l'inspiration, nous coupe un peu du reste.
D'accord, je vois. Et du coup, à l'inverse, si on est trop rempli de trop de culture, trop d'artistes, trop de choses qu'on a écoutées, ça peut nous nuire aussi?
S'il y a trop de mouvements et ou si on n'a pas l'occasion d'être posé.
Je pense par exemple à Mozart à la fin de sa vie, qui est continué de, il avait des mélodies sans cesse dans sa tête, ça n'arrêtait pas, il fallait qu'il les écrive, au point qu'on se demande si, enfin, si c'était compulsif ou si c'était naturel, tu vois, dans l'idée.
Ça, je pense qu'il y a que Mozart qui peut répondre.
Mais bien sûr. Mais tu vois ce que tu vois, je vais revenir.
Oui, oui, oui. Là, c'est... je dirais que peut-être on a trop travaillé le canal, il est tellement clair et limpide qu'on n'arrive plus à le fermer.
Ouais, ça devient pressant presque.
Oui.
Et pas.
Ça
pas,
peut... Oui. Ça arrive parfois justement quand on n'arrive pas à se retrouver dans les conditions idéales ou qu'on n'arrive pas à connecter ce canal, d'avoir cette pression de je veux composer, je veux créer quelque
autant
chose, j'ai
ça
besoin
peut être
de créer.
Intéressant, autant souvent ça peut ne pas l'être aussi.
Ouais. Ça peut aussi, oui, peut-être pas nuire, mais gêner. Oui.
D'accord, tu t'es déjà retrouvé dans ces situations.
Ah oui, régulièrement, oui, oui, oui. Quand par exemple j'ai envie de faire une chanson et que j'ai aucun instrument sous la main, là je suis très 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 frustrée. C'est... Et ça reste, le désir de créer reste, et la possibilité technique, les moyens matériels ne sont pas là. Et,
c'est... Ouais.
Et puis bon, comme je suis limitée, par exemple, je ne sais pas dessiner, donc je ne peux pas exprimer ce désir de créer dans le dessin, ce qui serait beaucoup plus facile parce qu'une feuille, un crayon, on en trouve partout.
Oui, oui, c'est vrai.
Du coup, oui, ça m'est arrivé de me retrouver dans cette pression de la création.
Alors attends, du coup, une autre question me vient. Je me demande, imagine, tout d'un coup, on n'a pas de ni stylo, ni crayon, ni enregistreur, ni quoi que ce soit, mais d'un coup, une super mélodie nous vient, une super idée qui arrive, et elle s'en va. On n'arrive pas à la retenir jusqu'au moment où on va l'écrire, elle s'en va. Est-ce que tu penses que... on a loupé le coche, ou est-ce qu'il y a une chance qu'elle revienne ?
Il y a une chance qu'elle revienne, plusieurs années après, qu'on ait complètement oublié que c'était déjà venu.
D'accord.
Oui, mais il y a une chance qu'elle revienne.
C'est pas perdu, ouais.
Non.
D'accord. Mmh. Parce que je connais beaucoup d'artistes qui se lamentent d'avoir perdu la mélodie de leur vie, alors que peut-être qu'éventuellement, on ne sait jamais
c'est
si elle peut revenir.
Je pense qu'ils ne l'ont pas perdu définitivement. Ils l'ont perdu sur le moment.
Ouais.
Mais... peut-être pas définitivement. J'ai une bonne anecdote sur ça.
Je veux bien.
Le chanteur de mon groupe Corrigan Circus, enfin du groupe dans lequel je jouais, avait une fois été en forêt et avec sa flûte et il a trouvé une mélodie qu'il a trouvée vraiment géniale et il avait rien pour écrire, il avait rien pour enregistrer, il était dans la forêt avec sa flûte. Il l'a jouée en boucle jusqu'à ce qu'il rentre pour pouvoir l'enregistrer en arrivant.
Là là.
Voilà.
Et il l'a enregistré.
Et il l'a enregistré en arrivant.
Oh là là, ça c'est bon. Ça c'est très très bon. Il a eu la chance d'avoir l'instrument avec lui.
Oui, oui. Oh, je pense qu'autrement, il l'aurait chanté.
Ouais.
Il l'aurait chanté en boucle jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il puisse
enregistrer. C'est intéressant pour ceux qui cherchent à garder la trace. Et souvent, en plus, c'est souvent quand on est désemparé qu'il peut y avoir le truc qui arrive. Quand on est trop près, peut-être aussi, entre guillemets, le flux de l'inspiration ne va pas venir. Mais quand c'est justement, on est sur le fil, peut-être que là, c'est là qu'il y a un truc qui se passe.
Oui.
Je me rappelle cette histoire avec Yves Montand, qui avait écrit La bicyclette. Il s'était cassé la gueule à vélo avant de l'écrire et ça lui avait donné l'idée. Mais il n'avait pas du tout prévu d'écrire cette chanson, quoi. C'était pas du tout dans. Et puis en fait, c'est un peu ça qui a lancé sa carrière. Il ne serait pas cassé la gueule à vélo. La petite flûte, tout ça, l'air et tout, ta 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 ta. Et du coup, ça me fait penser à ce que tu dis. Enfin, il y en a mille et une manières de marquer nos créations dans la tête. Parfois, on les a, on oublie. Mais il y a plein de possibilités en fait, plein de façons d'ancrer la mélodie en nous pour qu'après on la retrouve.
Oui.
Ouais. Ok, nous allons faire une autre petite pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques instants.
Sunlight.
Et nous revoilà, les amis. Nous allons parler de plus en profondeur de toutes ces petites choses techniques des instruments, des matériaux, de ce qu'ils apportent, du son. De quel instrument tu voulais nous parler en premier ?
De mon violon alto, c'est celui que j'utilise le plus et que je connais le mieux.
D'accord. Il est un peu ancien.
Il a été fait par un luthier à Paris il y a 10 ans, donc en 2008. Mm-hmm. Il l'a fait pour qu'il paraisse ancien, mais il n'est pas du tout ancien, du coup, il a 10 ans. Quoi.
Il a donné une patine ancienne.
Oui. C'était ancien.
C'est pas mal déjà d'arriver à faire ça.
Oui, c'est une question de vernis.
Ça veut dire que les petites taches marron clair, c'est fait exprès?
Non, ça c'est des accidents de voyage, on va dire.
D'accord, parce que ça donne un cachet aussi.
Mm-hmm. Okay. Non, c'est un peu d'eau de mer, un peu de pluie, des accidents.
D'accord.
Après, j'ai un luthier à Canitro, mm-hmm. dans le Tarn, qui a refait le chevalet. Parce qu'il était tordu à cause de la pression des cordes, si elles sont trop tendues, si on les accorde trop souvent. C'est des instruments très sensibles à la météo.
D'accord.
Au froid, chaud, humidité, pas humide, sec, ouais. Tout ça. Et genre, dès qu'il fait froid, il va se tendre. Mm-hmm. Quand il fait trop chaud, il va au contraire complètement se détendre. Et du coup, à force de bouger les cordes, le chevalet, qui est maintenu par la pression des cordes, en fait, il n'est pas du tout fixé à la table du violon.
Du coup, il y a des chevalets plus ou moins résistant selon la manière de créer en fait le truc.
Le chevalet, à mon avis, est une pièce assez neutre.
Ouais.
Mais bon, il faut que ça corresponde à la taille quand même. Les violons alto n'ont pas de taille définie en fait, c'est selon la taille du musicien.
D'accord.
Du coup, bon, on peut pas utiliser un chevalet trop petit ou trop grand, mais il y a un sens de courbure. Mm-hmm. Celui que j'avais à la base était à l'envers, donc. Il m'en a refait un long.
Ah, c'est en fonction de la courbure des rainures du bois ?
Non, c'est par rapport aux cordes. Les cordes ne sont pas plates, sinon quand on jouerait, ce serait les quatre en même temps sans pouvoir les dissocier. Donc ça fait une petite courbure, hein. C'est bombé, on va dire.
Ah, c'est subtil, très subtil.
Oui, c'est assez subtil. Bon, ça, on le sent bien quand on joue tous les jours.
Ça peut se voir à l'œil nu, ça ?
Oui, ça se voit très bien que ce n'est pas plat, ce n'est pas tout sur le même niveau.
Si tu me permets, je veux bien que tu me montres.
Oui.
Où c'est que je peux voir ça?
Mais tu vois, déjà rien qu'au niveau du chevalet, on voit qu'il est bombé.
Ça oui.
Et les cordes, les cordes suivent la forme du chevalet. Donc,
d'accord.
Elles sont bombées aussi. Et mais ça, c'est pour que quand on joue, ça ne joue pas les quatre en même temps. C'est pour que ça puisse jouer une part.
Elles n'ont pas la même hauteur.
Non, elles ne sont pas la même hauteur.
Du coup, ouais, ça me fait penser aux fameuses hauteurs de notes. Même dans les instruments où c'est comme le piano, il y a des histoires de hauteur de notes.
Alors la hauteur de notes, c'est autre chose.
Autre chose. C'est pas la même chose.
C'est par rapport à la longueur de la corde.
D'accord.
Oui.
Ok. François Grimaud.
Alors François Grimaud, c'est le luthier de Canitro, du coup, qui m'a refait le chevalet et qui m'a fait un archet aussi.
D'accord.
Un archet tout beau, tout neuf.
Il est super bien en bois de...
En Pernambouc, c'est un bois du Brésil.
Waouh. Et ça, ce genre de chevalet, ça peut être influencé par les intempéries aussi ou...
Chevalet, archer, instrumentier.
Parce que s'il est résistant, s'il est de qualité, ça dure plus longtemps, quoi.
Il faut y faire attention.
D'accord, c'est comme les autres.
Et je dirais même que plus il est cher, plus il est fragile. Enfin, peut-être pas forcément, mais disons que on va y faire plus attention si on l'a payé cher.
D'accord. Parce que tu allais évoquer tout à l'heure le fait que tu connais. Au niveau des qualités des archers, tu nous en dirais un mot?
Disons que je me suis longtemps demandé quelle était la différence entre un archer à 300 euros et un archer à 5000 euros.
C'est une très bonne question.
Voilà. Je suis allé en essayer des archers à 5000, 6000 euros pour me rendre compte par moi-même. Et effectivement, quand on a l'habitude de jouer tous les jours ou longtemps et qu'on teste ces différents archers, c'est très subtil, mais ça se sent radicalement. Les différences au niveau de l'équilibre, du poids, de la manière de la courbure de l'archer.
Ouais. Okay.
C'est vraiment... Oui. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des luthiers qui se consacrent aux instruments et des luthiers qui se consacrent aux archers, les archetiers. Parce que, par exemple, François Grimaud...
Il y a des archetiers aussi. Ça n'existe que des archetiers.
Oui, François Grimaud, il est archetier. Enfin, c'est une spécialisation, on va dire.
Parce que c'est tellement spécifique.
Oui,
okay.
Oui. C'est vraiment un travail... Un travail énorme, très subtil, et il y a beaucoup de pertes dans la création d'un archer aussi. Donc ça se paye aussi. Mmh. Et la qualité du bois, on peut prendre le meilleur bois du monde, genre là c'est du Pernambouc, je sais pas si c'est le meilleur bois du monde. Mmh. En tout cas, quand il a tailler son bois pour obtenir la baguette de l'archer. Mmh. Et il a, malgré le fait que ce soit un meilleur bois du monde, il a eu énormément de pertes parce que c'est pas dit que ça tombe bien au niveau de la courbure, au niveau des nœuds du bois, au niveau de...
C'est un peu le hasard, quoi, presque.
Il y a une part de hasard.
Une part de hasard.
Oui. Mmh. Du coup, ça se paye aussi dans la main-d'œuvre, dans la perte de la matière.
Je vous invite, les amis, à aller voir une vidéo sur YouTube. C'est un pianiste qui teste un piano de 1900 et un piano de maintenant. Et ils n'ont pas la même technique de son. Et pourtant, c'est quasiment les mêmes factures, quoi. C'est vraiment intéressant de voir que selon le même instrument, il y a des différences tellement notables sur la qualité. Ok. Tu nous parlais d'un autre de ces instruments ?
Je pourrais te parler.
Le petit violon, peut-être.
Le petit violon, c'est à peu près la même que mon alto.
Oui.
Le chevalet a été changé par François Grimaud. L'archer, pour le coup, c'est un petit archer, comme c'est un bébé violon, on a un bébé archer. Un chinois, et un archer chinois qui est pour le coup pas de très bonne qualité, pas très subtil,
d'accord,
mais qui va bien pour. Qui est suffisant, on va dire, pour ce que je fais avec ce violon. Et oui, par contre, il date de 1721, donc l'entretien est...
Il a dû être... il a passé entre plein de mains, j'imagine.
Il est sûrement passé entre plein de mains, oui. Là, après, je ne connais pas bien son histoire, à part le fait que je l'ai récupéré dans
peut-être
la famille.
Il y a un moment, il n'a pas été joué, à
oui.
l'entreprise.
Oui, ça, quand je l'ai récupéré, il n'avait pas été joué depuis très longtemps. Avant ça, je ne sais pas. Je ne connais pas son histoire, je ne sais pas d'où il vient.
Oui, il y a cette petite boîte aussi qui est intéressante, boîte de pirate, là.
Du coup, boîte d'origine.
Okay.
Qui pourrait même valoir plus que le violon.
Est-ce que toi, tu as été briefé quand tu as eu tes premiers instruments sur comment bien les entretenir, pas les mettre dans telles conditions ?
On en a parlé. Ah oui, alors le premier truc qu'on apprend, c'est ne jamais laisser un instrument dans une voiture.
Ah.
Bon, pour le vol, bien sûr, mais aussi à cause des grosses différences de température qu'il y a dans les voitures. Les gros écarts de température.
D'accord.
Parce que même en hiver, où on peut se dire il fait de toute façon froid tout le temps. Si à un moment il y a un rayon de soleil, si ça tape dans la voiture elle va chauffer. Et le pire qui est, c'est de les laisser au soleil dans la voiture.
Ouais, il en faudrait beaucoup pour en arriver là, quoi. Ok.
Ouais. Mais bon, je connais des gens qui ont des instruments qui ont cassé parce qu'ils ont resté au soleil dans la voiture. C'est vraiment.
Est-ce qu'il faut passer une sorte de vernis de temps en temps?
De temps en temps, le luthier, lui, le revernit.
C'est le luthier qui s'en occupe.
Oui, ça, c'est le luthier qui s'en occupe. Nous, ce qu'on peut faire en tant que musicien, c'est enlever la colophane parce qu'on met,
colophane.
Une poudre. C'est une résine qu'on met sur l'archer, sur les crins de l'archer.
D'accord.
Pour que ça accroche, pour que le crin accroche la corde.
D'accord.
Et que le son sonne, on va dire.
D'accord.
Et ça dépose une poudre qui est corrosive, qui attaque le bois, qui attaque le vernis surtout.
Ah.
D'ailleurs, ça se voit sur le mien. Il y a des endroits où il a été attaqué, par exemple ici.
Ouais.
Tout le bord où des fois, sans faire exprès, je touche le bois avec l'archer et du coup la colophane se pose dessus et il est complètement, le vernis est complètement parti, complètement mangé, on va dire.
D'accord.
Par cette matière.
Très, très intéressant.
Donc ça, ce qu'on peut faire, c'est... Bon, il y en a qui le font pas du tout. Il y a des violons qui sont très très blancs au niveau de là où on passe l'archer.
Ah oui.
Parce qu'ils enlèvent jamais la colophane. Donc c'est pas une obligation, mais bon, j'avoue.
Il vaut mieux le faire, quoi.
Je préfère le faire, oui.
D'accord.
Pour le garder beau le plus longtemps possible, on va dire.
C'est vraiment intéressant, tout ça.
Après, il y a des petites choses à savoir, comme mettre de la craie sur les chevilles, si elles ont tendance à tourner toutes seules.
De la craie sur les chevilles.
Les chevilles, c'est ce qu'on a dans le haut.
D'accord.
Pour tendre les cordes.
Et de la craie d'école ou de
oui,
la craie...
Oui, de la craie d'école.
Comme on met de la craie sur la table, le truc de billard.
Oui, voilà,
ah,
exactement.
C'est le même principe.
Oui.
Pour donner une espèce de souplesse ou de
pour
malléabilité.
Pour que ça accroche, en fait, pour que la cheville accroche au bois et arrête de se détendre toute seule. Et on peut aussi mettre du savon ou du crayon au niveau du chevalet.
J'imagine que c'est pas n'importe quel savon et pas n'importe quel crayon.
Savon de Marseille et du crayon à mine, crayon graphique.
Tu veux dire, là, on gratte avec le crayon, on écrit dessus ou quoi ? On fait quoi avec le crayon ?
On le passe au niveau de là où passent les cordes sur le chevalet.
Ah.
Pour que la corde soit quand on tend et détend, quand on accorde.
Tout un tas de petites techniques.
Oui, c'est pour éviter que le chevalet se torde. Que la corde glisse bien sur le chevalet, en fait.
Et ça, tu l'as appris au fur et à mesure ou tout d'un coup ?
Au fur et à mesure, oui.
On vous en donne
la craie, pareil, j'ai appris quand j'étais petite. Le coup du crayon sur le chevalet, ça, c'est parce que j'ai eu des problèmes avec mon chevalet. Justement, je l'ai fait changer et tout ça. À cause de ça, du fait que la corde glissait mal dessus et à chaque fois que je tendais, détendais, ça déformait le chevalet, au final. Du coup.
D'accord, ok.
Voilà. Après, le mieux, c'est quand même de l'emmener régulièrement chez le luthier pour une révision.
Ok, ouais.
Voilà.
Oui, comme on amène tout un tas d'autres objets du quotidien.
Oui. Oui, voilà. Et l'archet, pareil, nécessite aussi un entretien. Il faut changer le crin régulièrement. Quand ça
même
se...
pour des archets à 1000 euros ?
Ah oui. Oui, le crin, il s'use.
Ça, il s'use très vite.
S'use, non seulement à cause de la colophane, mais en jouant aussi. Il casse aussi.
Ah oui.
Il casse beaucoup.
Ah oui, oui.
Oui. Donc ça, ah oui, ça vraiment, c'est à changer régulièrement. C'est clair. Toujours.
Il y a quelque chose à. Il y a un lien qui se crée forcément entre le luthier et le joueur. Quoi.
Ah oui. C'est pour ça d'ailleurs que cet archet, je voulais y mettre le prix, mais que ce soit François Grimaud qui me le fasse. Parce que c'est mon luthier, on va dire, quelque part.
Je comprends. Ouais. C'est génial.
Oui.
C'est génial, tout cet univers. Ça serait intéressant d'interviewer un luthier, personnellement, sur ses propres techniques. Bon, je pense pas qu'il existe. Exactement, mais d'avoir des détails un peu plus poussés, ça serait génial.
Le genre d'entretien qu'il fait sur mon alto régulièrement, c'est replacer l'âme, par exemple. L'âme, c'est le bout de bois qui est à l'intérieur.
Parce que ça bouge.
Alors, sur le mien, oui. Je ne sais pas si c'est normal, mais sur le mien...
Comment on fait pour déplacer quelque chose avec des petits trous comme ça?
C'est les vibrations. Alors, lui, il a un matériel spécial.
Il a un qui rentre dedans et qui bouge le...
Il a aussi, pour être sûr que ce soit à la bonne place, il a une petite réglette qui rentre dedans et qui mesure exactement la bonne place. Il a vraiment du matériel spécifique.
Hyper technique.
Après, ça a amené à bouger.
Si l'âme, elle s'en va, si elle se casse, par exemple, il faut tout démonter ou pas?
Non, on ne peut pas démonter. Il peut remplacer. Sur le petit violon, il a remplacé l'âme. Elle était grignotée.
Il faut aller la chercher avec le matériel et après la remettre.
Oui.
Mais ce n'est pas collé, en fait.
Non.
C'est juste.
C'est maintenu, oui.
C'est maintenu.
Oui.
Ah oui.
Comme le chevalet, c'est maintenu par la pression des cordes, l'âme est maintenue par le haut et le bas de la table. C'est pour ça qu'elle se déplace parfois, avec les vibrations, les changements de température, les voyages, le mouvement, les chocs. Ça peut arriver qu'ils prennent des chocs, malheureusement.
Y a une question folle qui me vient là. Est-ce que tu penses que, que ça serait possible qu'un inventeur il fasse un violon ouvrable, qui ne perde pas de son son? Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment que tout le bois soit toujours... fixer la même chose pour que ça puisse faire le même son? Ou est-ce qu'un violon ouvrable serait potentiellement envisageable?
Je pense que si c'est envisageable, ça existerait déjà.
Ça existerait déjà? D'accord.
Okay. Oui. Après, je ne connais pas grand-chose à la technique de lutherie, mais je pense que c'est une énorme évolution depuis les premiers violons.
C'est sûr que ça serait un sacré truc, quoi.
Oui. Donc,
parce que quoi, ça voudrait dire qu'on pourrait bidouiller tout un tas de choses à l'intérieur?
Bon, il n'y a pas grand-chose à bidouiller. Hein. C'est, l'intérieur, c'est surtout... Le but, c'est l'espace qu'il y a dedans pour, pour que le son résonne, en fait.
D'accord.
Oui, donc par l'âme. L'âme porte le son de la table du haut vers la table du bas, en fait.
La table du haut et la table du bas.
Attends, oui, je ne suis pas sûr que ça s'appelle exactement comme ça, mais...
C'est-à-dire,
la table, c'est là où est posé le chevalet, où il y a la mentonnière, où on monte le manche et tout ça.
La planche la plus haute, ouais.
Voilà, c'est là.
Là, ça,
là
c'est
où il y a les ouïes.
La table
c'est
bas,
la table. En fait, la table du bas, je ne suis pas sûr que ça s'appelle table du bas, mais...
D'accord.
En tout cas, l'âme rejoint
on
les deux parties pour...
Vous pouvez dire ça, plancher, presque.
Oui, oui. Et l'âme est chargée de répartir les vibrations entre les deux, en fait.
D'accord.
Voilà.
Ok, je vais complètement... on va rester sur cette interview, mais j'ai une histoire qui me vient. Je voudrais avoir ton avis. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire du mage Cagliostro qui jouait du violon et qui, en jouant du violon, a presque fait une forme d'hypnose à ses auditeurs? C'était au 19e siècle. Cette histoire me vient parce que je me dis qu'est-ce qu'il a fait à son violon pour que ses auditeurs tombent presque en pamoison, en transe. Quelque chose s'est passé, on parlait de Stradivarius tout à l'heure. Et je me demande si tu connaissais cette histoire.
Je la connais pas du tout.
En fait, c'était un mage, il faisait des petites réceptions comme ça, avec des effets de lumière, avec des jeux de son. Parfois, il y avait de la magie, des trucs comme ça, des tours de magie. Et il avait un violon, Cagliostro, qui... Quand il jouait ce violon, il y a tout le monde qui tombait presque dans les pommes, mais d'une sorte de petite extase, une sorte de petite légèreté qui arrivait. Comme si, comme dans certains dessins animés, quand il joue un instrument, comme dans Joanne et Pirouette avec sa flûte. Et la flûte, et c'est peut-être que de l'imagination, mais la flûte fait que tout le monde qui l'écoute, après, ils sont un petit peu dans la lune, un petit peu perdus, un peu heureux. Ça t'inspire ?
Je pense que c'est plus dans ce qu'il joue que dans le violon en lui-même.
Ce qu'il joue
et sa façon de le jouer.
D'accord, ok. Mmh.
Ça m'arrive de perdre des gens un moment pendant qu'ils m'écoutent, ils sont dans un autre monde, dans une bulle.
D'accord.
Et ça vient vraiment de ce qu'on joue et de comment on le joue.
Sinon, si c'est une autre personne, c'est pas forcément l'instrument avec ce qu'il est. Il faut vraiment que la personne soit, c'est ce qu'elle est.
Je pense que c'est plus le musicien que l'instrument. Après, si t'as un jouet désaccordé et qui est pas vraiment jouable, c'est sûr qu'on va pas réussir à en tirer un son qui va en transporter le public.
Évidemment. D'accord. Oui, pour donner l'âme au violon, il faut qu'on ait même notre âme.
Oui.
En quelque sorte.
Oui. Et il faut qu'il ait son âme de fabrication aussi.
C'est tout un chemin. Bon, nous allons faire une autre petite pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. Je sais pas ce qu'il a fait dans Bach, mais à chaque fois il touche tout le monde, quoi. Peut-être parce qu'il y a quelque chose d'universel.
Oui, puis il a été tellement utilisé à droite à gauche que ça rappelle forcément quelque chose à quelqu'un.
Ah, attends, du coup je vais rebondir. Est-ce que tu penses que morceau qui a été tellement utilisé, il prend de l'âme, même sans parler d'instrument, sans parler de l'artiste, que le morceau devient presque indépendant d'une certaine manière et il prend une certaine forme d'ampleur, de densité, plus il y a de gens qui le jouent, quoi.
Oui, ça c'est sûr. Après, quelle ampleur, quelle densité et quelle âme il prend, ça dépend de où.
Évidemment.
Il est repris, par quoi, pour qui, par qui, pourquoi.
Oui.
Bon, là, moi, la façon dont je joue est absolument catastrophique.
Wow.
C'est une honte pour tous les classiques, mais...
mais bon,
je ne l'ai pas travaillé plus longtemps.
Il y a beaucoup de gens qui apprécieront, je suis sûr. Ok, non, parce que je pense, à l'Ave Maria, par exemple, tous ces trucs, et presque je me demande si c'est un égrégore de la musique, tu vois, un égrégore par artiste connu ou par morceau, même, je me demande s'il fait que parfois, dès qu'on entend un truc, pouf, ça y est, enfin, ça dépend de l'artiste, bien sûr, mais ça y est, il y a quelque chose qui se passe, on est pris dedans, et c'est impossible de... L'Adagio de Bach, Prénom de Pachelbel...
Oui, au bout d'un moment, le morceau n'appartient plus au compositeur.
Oui, il y a un truc qui reste dans l'humanité, quoi, dans la mémoire collective.
Ou ne serait-ce qu'une mélodie de Mozart qui paraît tellement naturelle et intuitive.
Ouais. Qui fait que c'est là, quoi.
Oui.
Est-ce que tu crois au côté spirituel de la musique ?
Ah bah, complètement. Complètement. Il y a un côté spirituel dans la création et l'inspiration, l'invention. On peut créer un morceau tout à fait technique, mais à mon avis, il ne restera pas dans le...
Dans le technique.
Il restera pas dans le temps, en fait. Il sera oublié.
Ouais.
Il va beaucoup moins toucher les gens. Si les gens sont touchés par un morceau, par une musique, c'est parce qu'il y a une âme, il y a une inspiration, il y a quelque chose de spirituel, une dimension qui les atteint.
Qui les touche.
Oui. Qui n'est pas technique.
C'est ce que vous voulez. C'est ce que cherchait Bach. Quand on parle de nombre d'or, il paraîtrait que dans ses partitions, dans sa manière d'en placer les notes, il aurait voulu donner l'harmonie la plus parfaite.
Bach était très technicien pour le coup, sur ça.
Ouais,
avec les nombres et les mathématiques.
Le musicien du ciel et tout.
Moi je dirais qu'il était plus technique.
Technique,
Oui. Après, la technique est là pour exprimer un ressenti. Donc il a cherché des moyens techniques d'exprimer sûrement ce qu'il ressentait. Mais en tout cas, moi personnellement, Bach me touche très peu. Mais
chacun son compositeur, évidemment. Bach ou d'autres. Mais par exemple, tu vois, je pense à Rachmaninoff. Et je me dis, lui, il est trop technique, peut-être.
Ah ben moi, Rachmaninov, je dirais plutôt qu'il était tellement dans l'émotion qu'au final, ça part dans tous les sens.
Ça part dans tous les
sens. Du coup, c'est techniquement difficile parce que ça va tellement partout.
C'est bien dit, ça, oui.
Voilà.
C'est très bien dit. D'ailleurs, on va mettre un petit extrait de Rachmaninov pour donner une idée, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent. Ben, si, peut-être. Mais on se demande si c'est technique ou si c'est émotionnel, son truc. C'est tellement... ouf. Tellement dans l'air. C'est génial. Allez, un petit bout de Rachmaninov. Voilà les amis, toujours en bonne compagnie artistique, musicale, et il y a beaucoup d'inspiration. J'espère que cette interview vous inspire, j'espère qu'elle vous donne l'envie de créer, de faire des choses aussi, voilà. Et justement, je voulais en venir à une question, voilà, ça fait un moment que tu es dans la musique, depuis ton enfance, depuis toujours presque.
Depuis toujours, complètement.
Depuis toujours même. Là, la musique. Et j'aurais envie de te demander, qu'est-ce que tu dirais à... quelqu'un qui est sur le même chemin que toi, mais qui commence, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne ?
De persévérer et de multiplier les expériences. De ne pas se cantonner juste à une chose, de rester têtu dans son projet, oui. Mais vraiment d'ouvrir ses expériences et de persévérer.
D'accord.
Il ne faut pas abandonner, il faut continuer, essayer.
Même s'il y a un univers qui nous attire moins, mais d'essayer pour voir.
Ne pas non plus s'éparpiller, parce
oui,
qu'évidemment,
sûr.
Si on s'éparpille dans tout,
on perd
de vue son but. Oui. Mais tout ce qui vient, ne pas le refuser systématiquement, parce qu'on est dans un projet personnel ou quoi. Mmh. Parce que vraiment, de multiplier les expériences de groupe, de scène, de studio, même ponctuellement, ça enrichit énormément l'univers personnel qu'on nous cherche à exprimer ensuite dans sa propre composition.
Tu sens que ça aurait été très différent si tu n'avais pas... était un peu ailleurs. Ce que tu crées maintenant aurait une autre couleur.
Ce serait beaucoup moins riche, oui. Oui, j'ai énormément d'influence de tous les groupes avec lesquels j'ai joué, ou même si c'était que des participations momentanées.
Oui, oui.
Ça m'a quand même beaucoup apporté, oui, c'est sûr.
D'accord. Au niveau aussi de la culture du Japon, toutes ces musiques que tu fais, qui sont inspirées de la culture manga, un petit peu.
Oui, beaucoup de Joe Hisaishi.
Joe Hisaishi.
Oui, qui est le compositeur des musiques des films de Miyazaki.
D'accord.
Donc Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, Ponyo pour un plus récent.
J'ai envie de rebondir sur tout ça. Je me dis, est-ce que c'est possible pour un artiste d'être influencé par rien, finalement ? Et est-ce que malgré tout, il peut quand même faire que son univers soit riche, tout en restant dans sa bulle ? C'est une question que je n'ai pas encore trouvé la réponse. Comment tu vois les choses, toi ?
À mon avis, on est forcément influencé par son environnement extérieur. On a obligatoirement un environnement extérieur.
Oui, oui.
S'il est très pauvre, on va peut-être faire quelque chose de plus personnel, mais du coup, probablement moins intéressant, moins riche.
Oui,
du coup,
oui.
Si l'environnement est pauvre, ce qu'on crée est pauvre, plus pauvre.
D'accord.
Parce que la création, finalement, c'est une inspiration canalisée par une technique.
Oui.
Une technique, et la technique n'est pas forcément que quelque chose que l'on va apprendre, mais aussi des choses qu'on va entendre, dont on va prendre, pas forcément prendre conscience d'ailleurs,
oui.
Mais qui vont venir là pour nous enrichir malgré nous quelque part.
Oui, donc, que ce soit artistiquement ou que ce soit dans la vie quotidienne, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui nous touche, quoi. Ou alors vraiment, il en faudrait beaucoup.
C'est à mon avis impossible que rien ne nous touche, parce qu'on est, dans un environnement, ça c'est indéniable, on ne peut pas être dans aucun environnement.
On ne peut pas.
Cet environnement, forcément, quand on est créateur, il nous touche, il nous inspire.
Même si c'est un minimum, il y a toujours un minimum.
Voilà.
Ok, super, on espère que ça inspirera des milliers de gens, et s'il y a des personnes qui veulent te contacter, n'hésite pas. En parlant de milliers de gens, voilà, j'ai une question que j'aime bien poser. Si tu avais une minute à peu près pour donner un message à toute l'humanité, qu'est-ce que ça serait ?
Principalement, je dirais, posez-vous des questions, soyez curieux et cherchez les réponses. Parce que se poser des questions, c'est bien beau, mais il faut chercher la réponse. Il ne faut pas se dire, oh, je ne saurai jamais, je m'en fiche, je laisse tomber. Non.
Mmh.
Et chercher la réponse, ça ne veut pas forcément dire s'asseoir sur une chaise et penser. Même, ça ne veut pas forcément dire ça du tout. Je pense trop, souvent on pense trop, et chercher une réponse, ça peut être aussi d'oser se lancer dans une action sans y penser forcément au préalable, parce que si on se met à y penser, on y pense trop, et en fait finalement on va pas chercher cette réponse. Voilà, mais je dirais à l'humanité, après ça dépend quelle humanité, parce que l'humanité est vaste, et on n'est pas tous dans le même milieu que nous, dans nos conditions de vie et tout ça. Nous, dans nos conditions de vie, on peut se permettre de se poser des questions et d'en chercher les réponses.
Oui.
C'est pas le cas de tout le monde. Donc, disons, pour une humanité qu'on va définir dans le même cadre de vie que nous, je dirais ça, oui. Soyez curieux, posez-vous des questions et cherchez les réponses, pas forcément que par la pensée.
D'accord. Waouh, c'est un sacré message que tu nous donnes là. Ok. C'est merveilleux. Ben écoute, on va pas tarder à arriver à la fin de cette interview, voilà. Il y a peut-être quelques petites questions qui restent en suspens. Je me demandais, voilà, qu'est-ce que tu penses du violon électrique, par exemple ?
Le violon électrique, c'est une belle invention pour jouer dans des groupes amplifiés, parce qu'amplifier un violon acoustique, c'est une galère. Galère. Enfin, après, ça dépend du style, évidemment, dans lequel on a besoin de s'amplifier, mais bon, pour avoir joué dans des groupes de métal ou de rock assez hard, soit il faut un micro vraiment cher et pointu et fin et bien placé, très spécifique, mais du coup c'est un investissement, c'est un gros investissement, ceci dit un violon électrique aussi, ou alors voilà un violon électrique, et parce qu'en fait le violon acoustique va vite l'arséner, donc effectivement il va rester en dessous des instruments amplifiés comme la guitare, la basse, dès qu'il y a une batterie de toute façon il faut amplifier parce que la batterie elle prend tout l'espace sonore. Et du coup, si on veut pas l'arsener, si on veut pas, l'arsène, c'est ce gros brouhaha. Oui. C'est mieux, évidemment, dans ce genre de musique, d'avoir un violon électrique, là, ça aide énormément, oui.
D'accord.
Après, ça reste pour ce genre de musique. C'est pas le son d'un acoustique. Et l'autre avantage d'un violon électrique aussi, c'est de pouvoir bidouiller le son avec des pédales d'effet.
D'accord. Oui. Donc, même faire du violon MIDI, on met carrément un autre son dessus, quoi.
Alors, je ne suis pas sûre que ce soit possible, mais c'est peut-être bien possible. Ouais.
Comme l'accordéon MIDI, on peut glisser d'autres... On peut mettre d'autres violons, d'autres instruments. Après, jouer du violon avec un son d'accordéon, je ne sais pas si ça serait marrant. Mais il y a cette possibilité-là qui est dans l'air, comme les guitares MIDI. Qu'est-ce que je veux dire ? Bah, écoute, c'est super. Ben, on va voir... on va aller vers les autres questions... Et aussi qu'on peut te retrouver prochainement dans les endroits où tu vas régulièrement, ou si les gens veulent te contacter, on mettra les liens sur la page de l'interview. Mais est-ce qu'il y a des lieux phares où les gens peuvent te retrouver si tu joues dans la rue, par exemple
Sur les marchés, mais après je bouge tellement que je ne peux pas dire en avance.
Marché du Sud ?
Oui, plutôt dans le Sud, mais là, cet hiver, je vais...
Quelques marchés phares ?
Il y a quelques marchés où je vais régulièrement, c'est à Carmo, dans le Tarn.
Carmo.
Du coup, c'est là que j'ai grandi. Donc ça, c'est le vendredi matin. Mais c'est quand même pas tout le temps non plus.
Ouais, mais bon, les gens, ils seront prévenus.
Voilà. Après, il y a Cordes sur Ciel. Du coup, c'est à côté. C'est le samedi matin. Quand je suis à Carmo, en général, le samedi matin, je vais à Cordes.
Waouh, tu joues à Cordes sur Ciel. J'ai un village, j'ai toujours voulu y aller. Ça a l'air beau.
C'est très beau,
c'est un des plus beaux villages de France.
D'ailleurs, en général, je me gare en haut et j'y vais à pied.
Oui.
Pour profiter de la vue, du chemin et tout ça.
Village fleuri, village très beau.
Très médiéval.
Très médiéval.
Très ancien, oui.
Traditionnel.
Après, on peut me retrouver à Pau, dans les rues de Pau.
Dans les rues de Pau.
Parce que ces temps-ci... Mais pareil, ça, c'est valable jusqu'en janvier. Parce qu'en janvier, je pars en voyage avec la voiture, là. Mmh. Et je vais faire un tour en Europe. Et je vais être plus au nord de la France, après. Mmh. En avril, je pars au Japon. Donc, voilà, c'est...
Ah, c'est
et puis sinon, je vais assez régulièrement à Toulouse aussi. Mais,
ok,
voilà.
D'accord. Et tes prochains projets, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air en ce moment ?
Là, actuellement, je voudrais faire des vidéos, des reprises, donc des morceaux que je joue dans la rue. C'est des reprises, en général, j'ai que très peu de compos dans la rue, parce que je joue au violon seul. Et je voudrais faire ces vidéos-là pour les mettre sur ma chaîne YouTube et essayer d'augmenter mes vues pour que les gens, par le biais des reprises des jeux vidéo, donc principalement des Final Fantasy, puissent connaître mes compos.
D'accord, c'est une très bonne idée.
Voilà, ça c'est un de mes projets actuels.
Tu as le nom de ta chaîne en tête, par hasard ?
Lulu Pimaï. De toute façon, il faut taper Lulu Pimaï. Je pense même qu'en le tapant dans Google, on tombe à peu près sur tout.
Il y a SoundCloud, il y a
YouTube, la page Facebook.
Voilà.
J'ai créé un Instagram il n'y a pas longtemps, mais je ne m'en sers pas beaucoup.
D'accord. Okay.
Et ensuite, je vais retourner au studio aussi pour préparer quelques chansons du second album.
D'accord.
Et j'aimerais faire, avant de partir au Japon, donc je pars en avril, des vidéos de mes compos aussi.
De tes compos futurs, passé, présent ?
C'est actuel ou à venir, ou on verra sur le moment.
D'avoir un panel de vidéos accessible.
Voilà, pour que les gens qui ont été attirés par les reprises, quand ils vont écouter les... voir, parce que du coup, ce sera sur YouTube, les compos, il n'y ait pas juste une photo.
Oui, oui.
Voilà, qu'il y ait quelque chose, quoi.
Ah, super.
À voir, en plus des
compos. C'est merveilleux, écoute, c'est merveilleux. Voilà. Et à plus long terme, qu'est-ce que tu aimerais vivre musicalement, à très long terme ? De quoi tu rêves ?
En fait, là, dans un premier temps, d'avoir une chanson à la radio, une radio connue,
Chanson à
si
la radio,
possible. Voilà, comme
d'accord.
ça, ça c'est fait, on peut dire.
Ouais.
Ensuite, j'aimerais quand même faire de la scène, mais que des grosses scènes, pas refaire. J'ai beaucoup joué dans les bars, dans les petites scènes, les petites conventions, où c'est beaucoup d'énergie dépensée pour pas beaucoup de gains au final, que ce soit matériel ou au niveau du public. Le public est souvent très attentif, sauf dans les bars. Mais peu nombreux, et puis ça rebondit sur rien, on peut dire ça comme ça, ou rarement sur autre chose. Donc je chercherais plutôt à viser des grosses scènes, c'est pour ça que si j'ai un morceau à la radio,
Oui.
ça peut déjà ouvrir des
Ah, ça
portes.
peut en ouvrir pas mal,
Voilà.
effectivement.
Et mon rêve étant de jouer sur un piano à queue sur une grosse scène.
Dans une grande salle, une salle classique, une salle.
Non, plus une salle rock.
Salle rock,
Ou rock,
style Piano
pop
Guys?
folk rock.
Un peu.
Oui,
D'accord.
exactement. C'était le Piano Guys. Que
Oui,
je conseille
on a
d'ailleurs.
écouté Piano Guys, ça m'a fait découvrir ça et c'est quelque chose à voir. C'est un style intéressant d'avoir des instruments très, très classiques, mais d'en faire quelque chose de très rock pop. C'est vachement agréable à écouter.
Et pour finir du coup sur mes projets, ce projet dont je parle, ce rêve dont je parle, ça pourrait être aussi bien en France, en Europe qu'au Japon. J'aimerais vraiment collaborer avec ce pays plus longtemps. Je collabore déjà avec un artiste là-bas qui a fait la pochette de mon album,
Ah
à qui
oui.
j'ai écrit La vie sourira, une de mes chansons
Qui se
phares.
reconnaîtra peut-être s'il comprend le français.
Il ne comprend pas le français
Mais
malheureusement.
en tout cas, elle lui sera dédiée, on la mettra à la fin de. Ok. Et du coup, il y a aussi l'idée d'un répertoire pour enfants.
Les enfants aiment bien ce que je joue en général. Après, c'est pas forcément destiné aux enfants. J'ai du mal à comprendre le fait de les mettre dans une catégorie à part avec des trucs un peu abrutissants.
Oui.
Du coup, je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas écouter mes chansons,
Oui.
qui sont pour la plupart des messages d'amour.
Oui.
Il y a la chanson Éducation qui est peut-être destinée plus particulièrement aux adolescents.
D'accord.
Mais c'est ma seule chanson un peu engagée, donc voilà. Après, je pense que tout mon répertoire, aussi bien au niveau des reprises que des compositions, peut s'adresser aussi bien à des enfants qu'à des adultes, qu'à des ados, qu'à des vieux, qu'à des jeunes,
C'est
Tout le
bien,
monde.
tu es un peu universel, tout le monde peut être touché par ta musique.
Je pense, il n'y a pas de raison que non, je pense. Après,
C'est pas parfait. Il y a des artistes parfois qui sont trop mystérieux et du coup c'est difficile de s'approprier leur œuvre, de rentrer dedans. Donc c'est bien si tu as fait quelque chose de compréhensible, de beau, qui touche potentiellement tout le monde. Ok.
C'est pas forcément volontaire, mais je pense que c'est
Nos créations sont un peu de nous-mêmes, quoi.
Oui.
Donc c'est le signe que tu es rempli de belles choses au fond de toi, finalement.
J'espère.
Et toute cette, on n'en a pas beaucoup parlé, mais cette rencontre au Japon qui te nourrit beaucoup aussi.
Oui, mon dernier voyage a été très très marquant. C'est un peu comme quand je suis allée aux Canaries, il y a un avant-après, il y
Oui.
a un avant-après Japon. Je suis rentrée il y a 6 mois, j'ai l'impression d'être rentrée hier, je repars en avril, fin avril, j'ai l'impression de partir demain. C'est vraiment,
C'est très présent.
oui, très très
D'accord.
présent. Oui.
Ok, un dernier mot pour cette interview?
Aimez-vous! Aimez-vous et vous-même et les uns les autres.
Oui.
Voilà.
D'accord. Eh bien, nous allons terminer cette interview avec, pour moi, c'est la chanson phare que tu as créée, c'est La vie sourira. Voilà. Tu as fait en combien de temps cette chanson?
Assez longtemps en fait, une semaine, je dirais.
Une semaine. Et tu as fait donc violon.
Une semaine que pour les paroles et la partie de guitare.
Et le violon un peu plus tard.
Ça, je l'ai fait en rentrant du Japon, donc un peu plus tard, oui.
D'accord. Elle est superbe. Eh bien, c'est parti, les amis. À bientôt pour une nouvelle interview et que l'inspiration soit avec vous. Salut!
Salut!
Bonjour.
De la sagesse et de l'humour, vous êtes bien sur Radio Livre Audio. Soyez joyeux, soyez positifs, écoutez Radio Livre Audio.
Tu voyais dans mon cœur, c'est possible, bonheur, c'est possible, bonheur. L'art est un refuge aux âmes perdues, expression intime de sentiments confus. Que sont ces moments si ce n'est qu'une affaire de temps, qu'une affaire de temps. Mais ce n'est qu'un instant qui, comme toi, passera. La vie, tout en changeant, ne te retiendra pas. Et le ciel pleurera quand tu ne seras plus là avec moi. Sincère, intuition réalisée dans l'éphémère. Ah, quelle chance si rare, accueil de la vie cet art, accueil de la vie cet art. La vie en avançant peut se jouer de toi. Souviens-toi du présent qui mène tes choix. Là, vers qui tu aimeras, ne m'aimes-tu pas déjà, ne m'aimes-tu pas déjà. Mais ce n'est qu'un instant qui, comme toi, passera. La vie, tout en changeant, ne te retiendra pas. Et le ciel pleurera quand tu ne seras plus là avec moi. Mais ce n'est qu'un instant comme toi passera. La vie, tout en changeant, ne te retiendra pas. Et le ciel pleurera quand tu ne seras plus là. Et la vie sourira quand tu reviendras pour moi.